Véroa Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington.
We had a really fantastic meeting. A lot of progress, really very positive. I think better than anybody could have expected. Top of the line, really good.
Le président américain Donald Trump, dans une déclaration très optimiste après le déjeuner de travail de ce matin à Singapour avec le leader nord-coréen Kim Jong-un et leurs délégations respectives. Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition spéciale du mardi 12 juin 2018. Sommet historique donc ce matin à Singapour entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia en compagnie d'Idriss Fall ce matin pour des analyses et entretiens avec des experts. Bonjour Idriss.
Bonjour Idrissa.
Le président américain Donald Trump a qualifié de très bon, de très très bon, ce sont ses propres termes, son premier face-à-face avec le leader nord-coréen Kim Jong-un, et il a parlé d'une excellente relation lors du sommet entre les deux dirigeants sur une éventuelle dénucléarisation de la péninsule coréenne. Jean-Roger Bion.
Donald Trump et Kim Jong-un ont passé ensemble environ 40 minutes en compagnie seulement de leurs interprètes respectifs. Ces discussions ont été ensuite élargies à leurs deux délégations. Il y avait côté américain le secrétaire d'État Mike Pompeo, le conseiller en matière de sécurité nationale John Bolton et le secrétaire général de la Maison-Blanche John Kelly. « Nous allons résoudre un gros problème », avait dit M. Trump avant ses pourparlers. Les deux parties ont eu par la suite un déjeuner de travail. Après ce déjeuner, M. Trump est sorti en compagnie de Kim Jong-un pour dire que c'était vraiment une rencontre fantastique et que les choses se passaient mieux que quiconque aurait pu imaginer et qu'ils allaient signer quelque chose qu'il n'a pas précisé. Toutes ces rencontres avaient été précédées un peu après 9h, heure locale, par une poignée de main historique entre le président Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un, avec en arrière-fond une dizaine de drapeaux de leurs deux pays alors que les photographes immortalisaient ce moment historique, la première rencontre entre un président américain en exercice et un leader nord-coréen. Assis l'un près de l'autre avant leur face-à-face, M. Trump a prédit une grande discussion, ajoutant « Nous allons avoir un immense succès et c'est un honneur pour moi et nous allons avoir une relation formidable, aucun doute à ce sujet ». Pour sa part, Kim Jong-un a déclaré que le chemin menant à ce sommet n'a pas été des plus aisés parce que s'aimer de vieux préjugés et d'habitudes anciennes constituant des obstacles, mais que les deux pays ont pu surmonter pour en arriver à ce jour. Le président Donald Trump doit s'adresser à la presse avant de quitter Singapour dans la soirée, selon la Maison-Blanche. À la veille du sommet, les officiels américains avaient souligné que tout accord devra mener à la fin des menaces que constituent les armes nucléaires et les missiles balistiques de la Corée du Nord. Pour le secrétaire d'État Mike Pompeo, il n'est plus question de conclure des accords fragiles, comme ce fut le cas avec les précédentes administrations. L'objectif ultime de cette diplomatie, avait-il souligné lundi, n'a pas changé, la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la péninsule coréenne. C'est le seul résultat qu'accepteront les États-Unis. Les sanctions resteront en place, avait répété M. Pompeo, jusqu'à ce que la Corée du Nord élimine complètement et de façon vérifiable ses programmes d'armes de destruction massive. Et il avait ajouté, si la diplomatie ne nous mène pas dans la bonne direction, ces mesures seront augmentées.
Merci Jean-Roger. Maintenant, je cède l'antenne à Idriss Fall pour des analyses.
Je pense que d'abord, nous devions avoir en direct M. Herman Cohen, qui est l'ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. M. Cohen, bonjour.
Bonjour.
On vous a fait attendre assez tardivement, 1h30 à Washington. On sait que la table est de mise à Singapour. Donald Trump a annoncé la signature de quelque chose dont on ne sait pas encore. Mais qu'est-ce qui peut sortir comme accord entre les États-Unis et la Corée du Nord?
Oh, il y a des choses faciles, il y a des choses difficiles. Faciles, je crois qu'ils vont annoncer la fin de la guerre qui dure depuis 1950. Et aussi, peut-être, ils vont établir une sorte de relation diplomatique comme nous avons fait avec la Chine avec président Nixon, c'est-à-dire établir des bureaux qui ne sont pas des ambassades, mais avec des diplomates. Ce sera facile de faire ça. Ce qui est difficile, c'est d'avoir une décision par la Corée du Nord de terminer leurs armes nucléaires dans un certain laps de temps, c'est-à-dire dans 2 ans. Je crois que les Coréens du Nord vont dire « Oui, un jour, ce sera terminé, mais ils ne vont pas avoir l'obligation de faire ça dans 2 ans ou 3 ans. » Ça, c'est une discussion très difficile.
Justement, est-ce que vous ne craignez pas un remake de ce qui s'était passé en 2005, tous les accords qui étaient déjà conclus avec la Corée du Nord et qui n'ont jamais été matérialisés?
Ça, c'est un vrai danger. Mais à mon opinion, la situation est différente maintenant parce que Kim Jong-un est jeune et il voit son pays vraiment pauvre, plus pauvre que n'importe quel pays africain. Et il ne veut pas vivre encore 40 ans comme chef d'État d'un pays tellement pauvre. Donc, il a besoin des investissements. Et ces investissements peuvent venir seulement de Corée du Sud et de la Chine. Et sans avoir un vrai pays dans la péninsule coréenne, il ne va jamais avoir les richesses qu'il désire. Donc, je suis un peu optimiste que Kim Jong-un va être un peu souple dans ces négociations.
Monsieur Cohen, Idrissa Seydoudia, mais on voit que si la Corée du Nord a pu obtenir ce sommet avec le président Donald Trump, c'est à cause de ses armes nucléaires. Est-ce qu'il va y renoncer comme ça?
Pas tout de suite, mais il peut dire qu'un jour, peut-être en 5 ans, en 10 ans, ce sera terminé. Parce que nous n'aurons plus besoin de ça, parce que le péninsule sera en paix. Nous aurons des liens commerciaux avec la Corée du Sud, avec la Chine, avec la Russie, avec les États-Unis. Donc, je crois qu'il va regarder longtemps et il va faire. Mais je n'ai pas l'impression qu'il va faire la même chose.
Mais en échange de quoi? Parce que quand on parle de dénucléarisation, les Nord-Coréens parlent du parapluie nucléaire américain et ils parlent aussi de ces forces américaines qui sont dans la région, non seulement pour protéger la Corée du Sud, mais aussi le Japon.
Mais ce que la Corée du Nord peut faire rapidement, c'est de cesser tout essai nucléaire, cesser tout essai de leurs missiles balistiques qui peuvent arriver en Amérique du Nord. Ça, ils peuvent faire ça tout de suite. Et l'Amérique, en revanche, peut faire aussi peut-être enlever quelques troupes de Corée du Nord pour commencer. Donc il y a toujours des petits pas. On peut prendre d'ici fin de l'année 2018.
Et quand sera-t-il des droits de l'homme en Corée du Nord? Et ce sommet intervient quelques jours après le camouflet du G7 et même quelques divergences avec le Premier ministre canadien, les alliés aussi.
Oui, les droits de l'homme en Corée du Nord, c'est un autre paire de manches, très important. Mais ça ne peut pas empêcher le premier pas vers établir la paix et éliminer les dangers des guerres. Ça, c'est la première priorité. Bien sûr, les Américains vont parler de ça parce qu'ils ne peuvent pas éviter. Mais c'est la deuxième priorité, le droit de l'homme. Et peut-être quand les Coréens commencent à gagner de l'argent avec les investissements, avec le commerce, le chef d'État n'aura plus besoin de faire des violations des droits de l'homme.
Merci, M. Cohen. Maintenant, je vois à la télévision le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen s'asseoir à la table et ils sont prêts à signer un document. Pour le moment, on ne sait pas lequel, Idriss.
Donc, un document compréhensif?
On l'espère. En attendant, vous avez une autre réaction?
Oui, donc parmi les pessimistes concernant cette rencontre, on avait interviewé peu avant la signature de cet accord Brett Bruen, et qui est le leader de Global Situation, qui ne voyait pas les choses de manière aussi optimiste.
À mon avis, ça ne va pas être un succès. On va dire que les Nord-Coréens ont reçu la majorité des prix pour cette rencontre. Ils ont reçu une certaine reconnaissance internationale. Ils ont reçu les bénéfices d'une meilleure réputation internationale. Et pour les États-Unis, on n'a pas vraiment eu des concessions assez importantes au niveau de leurs armes nucléaires ou au niveau de leur pratique démocratique, leur respect pour les droits de l'homme.
Mais quand même, ils peuvent aboutir à signer un accord pour terminer la guerre de Corée, par exemple.
Oui, mais avec quelles conditions, par quel processus, à mon avis, ce qu'on va voir sont des étapes par lesquelles les Nord-Coréens vont pouvoir prolonger le processus, prolonger le moment auquel il faut arrêter leur programme nucléaire. Et lorsque on va poursuivre ce processus, ils vont pouvoir continuer avec leur plan, même si ils reçoivent la reconnaissance internationale, sinon une certaine arrêt aux sanctions.
Donc vous craignez que Pyongyang ne respecte pas comme les accords qui avaient été signés en 2005 et les autres?
Exactement. Et ce qu'ils ont vu avec les cas de l'Iran, la Libye, sont des engagements que l'Ouest ont pris sans vraiment respecter les termes. À mon avis, la stratégie de Kim Jong-un, c'est qu'est-ce que je peux recevoir en ce moment-ci de Donald Trump, même si je sais bien que ça ne va pas vraiment avoir une valeur de moyenne ou bien de long terme.
Mais quand même, la poignée de main entre les deux hommes, on dit qu'elle est historique.
Oui, mais il est très facile en ce moment-ci d'avoir un certain enthousiasme, avoir une certaine énergie. Mais la vraie question qu'il faut aborder, c'est quels sont les détails, quels sont les plans par lesquels on va arriver aux objectifs. Et pour l'instant, je ne crois pas que les Américains ont développé des plans qui vont être acceptés par Pyongyang. Et à cause de ça, on va rester toujours dans cet espace assez vague, assez difficile, compliqué et aussi dangereux.
Iris, comme on le voit, le président Trump et le leader nord-coréen ont signé un document. On ne sait pas exactement ce que dit ce document, mais dans les déclarations faites par les deux leaders, le leader nord-coréen a dit qu'ils avaient décidé de laisser le passé derrière et pour signer ce document historique. Alors,
une déclaration d'intention.
Une déclaration d'intention. Le monde verra un grand changement. C'est ce qu'a dit Kim Jong-un et il a remercié le président Donald Trump pour avoir... On écoute le président. Il dit que ce sera très différent par rapport au passé et que les deux pays veulent faire quelque chose. Ils ont développé une relation très spéciale. Les gens vont être très impressionnés. Et ils vont prendre soin, ils vont régler un problème, un gros problème et un problème dangereux. Et il dit aussi que bon, personne ne s'attendait à quelque chose de meilleur que ça. Personne n'avait prédit une chose pareille. Et il a dit que cela va produire d'autres résultats. et il remercie tout le monde. Et si Washington, la voix de l'Amérique, on poursuivra dans quelques minutes, dans quelques secondes en réalité. Washington. Washington, VOA Afrique, on suit le sommet historique entre le président Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Ils viennent de tenir en quelque sorte une conférence de presse conjointe. Au cours de laquelle, avant cette conférence de presse, ils ont signé un document et fait différentes déclarations. Pour le moment, on ne sait pas ce que contient ce document et ce qu'il dit, mais le président Trump a dit que, en réponse à une question, quand on lui a dit « mais à quand la dénucléarisation ?», il a dit que c'est un processus qui va commencer « very quickly », c'est-à-dire très rapidement. Alors, il s'attend à ce que ça commence et que le processus mène à terme à la dénucléarisation dans la péninsule coréenne. Mais ils disent, comme on l'a dit, on ne sait pas pour le moment ce que dit le document que les deux leaders viennent de signer.
Une chose est sûre, c'est que si Anne, de l'autre côté de la vitre, tout à l'heure, peut avoir la signature de cet accord dont le contenu n'est pas précisé. J'avais parlé avec le professeur James Caesar de l'Université de Virginie qui enseigne les sciences politiques. En fait, depuis le début, on a dit que ce sommet est un sommet historique. Alors, pourquoi historique? Écoutons le professeur James Caesar.
Il est historique parce que c'est la première fois qu'un président a parlé directement avec le chef de la Corée du Nord. Le sommet a eu lieu et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu une conférence de presse. Donc, difficile à dire c'est ce qu'il a arrivé à faire, mais les deux ont parlé pendant toute la journée. Il semble que c'était quelque chose est arrivé, on a réussi à avoir une espèce de accord sur quelques points, mais comme je disais, on n'a pas exactement les résultats.
On parlait de dénucléarisation. Est-ce qu'on comprend ce concept? Qu'est-ce qui regroupe alors?
Alors, dénucléarisation, c'était dès le commencement l'objectif du président Trump. Il a dit que c'est le nécessaire pour un accord entre les deux, d'avoir une dénucléarisation qui est claire, qui tout le monde peut comprendre et qui va marcher. Autrement, ce sera la même chose que ce qui est arrivé il y a 20 ans. Donc, c'est, si vous voulez, la chose la plus importante et insister là-dessus. C'est la clé de la réunion, si c'est ça, si on peut avoir un accord sur ce point-là.
Est-ce qu'on peut espérer avoir la fin de la guerre de Corée?
C'est ça, c'est une possibilité, la fin de la guerre, mais il faut avoir vraiment, finalement, un accord sur la question de dénucléarisation. La fin de la guerre, oui, c'est important, mais c'est pas une réussite pour Trump.
Voilà, donc Idrissa, c'était une journée. On attend dans les prochaines heures de savoir le contenu du document signé par le président Donald Trump et Kim Jong-un, mais tous les deux ont assuré que c'est le début d'une nouvelle ère.
Effectivement, et le leader nord-coréen a dit clairement qu'ils avaient décidé de laisser le passé derrière et que c'était un document historique et que le monde verra un grand changement, et ça sont les termes même de Kim Jong-un. Pour sa part, le président Trump semblait très satisfait, en tout cas, c'est l'impression qu'il a donnée, en remerciant pas mal de monde, tous ceux qui ont contribué, n'est-ce pas, à la tenue de ce sommet, et à une question d'un journaliste qui lui demandait quand est-ce qu'aura lieu la question fondamentale de la dénucléarisation, puisqu'il a toujours été question de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Il a répondu, c'est un processus qui va démarrer très rapidement. Alors pour le moment donc, on en est là.
Mais qui va prendre du temps. Je pense que M. Trump lui-même l'avait laissé entendre avant de se rendre à Singapour que ça peut être le début de quelque chose qui prendra du temps. On ne sait pas, une année, 20 ans, 10 ans, on ne peut pas se faire...
Certainement pas 20 ans. En fait, oui, il a dit que ce serait un processus qui prendra du temps parce qu'on ne peut pas se débarrasser du jour au lendemain d'armes de cette envergure.
Mais il faut dire que la Chine a joué un rôle fondamental dans cette réunion-là parce que Kim Jong-un s'est rendu deux fois à Beijing avant d'envoyer ici son chef, son ex-chef des services secrets Kim Jong-chol qui est venu à New York, qui a été reçu à la Maison-Blanche et que la Chine sera un partenaire incontournable dans ce processus à venir.
Oui, mais Idriss, je ne sais pas à quel jeu les Chinois jouent, parce que si vous vous souvenez bien, à un moment donné, quand les choses ont semblé devoir capoter, le sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, le président Donald Trump lui-même avait dit qu'il y avait quelque chose qui avait changé après la deuxième visite de Kim Jong-un en Chine, laissant entendre que les Chinois avaient influencé en quelque sorte Kim Jong-un, sans le dire ouvertement, bien entendu, et que c'est peut-être ce qui expliquait la nouvelle attitude, le changement qu'on avait constaté au niveau de Pyongyang.
La Corée du Sud aussi a quelque chose à gagner dans
oui,
ce rapport.
Il est évident que le président Moon Jae-in, depuis le début, avant même qu'il ne soit élu pendant la campagne électorale, il avait dit clairement qu'il avait opté pour le dialogue avec la Corée du Nord et trouvé un moyen de résoudre ce problème qui dure depuis l'armistice en quelque sorte entre les deux Corées.
Et on sait que quand même il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt pour parler de réunification. On sait que quand même les relations seront beaucoup plus détendues entre la Corée du Nord et la Corée du Sud et économiquement tout le monde aura à y gagner bien sûr.
C'est très clair. En tout cas, il faut rendre hommage au président sud-coréen parce que dès le début, il a montré qu'il fallait trouver une solution à ce problème et que ça ne pouvait pas s'éterniser. Bon, il y a eu les Jeux olympiques, n'est-ce pas, qui ont aidé en quelque sorte à dégeler, si je puis dire, l'atmosphère entre les deux pays. Mais il a poursuivi cette diplomatie, il ne s'est pas découragé. Et même quand le président Donald Trump a annoncé l'annulation de ce sommet avec Kim Jong-un à Singapour, le président sud-coréen s'est mis à travailler et très dur pour éviter que ce sommet échoue avant même qu'il n'ait lieu.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Donc, pour le reste de l'actualité, Idrissa.
Oui, nous allons revenir sur le cas de Jean-Pierre Bemba. Comme vous le savez, Idriss, et c'est vous-même qui avez traité de ce sujet, les avocats de Jean-Pierre Bemba, acquittés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, plaident aujourd'hui devant la Cour pénale internationale pour sa libération immédiate. Alors à vous, Idriss.
La chambre d'appel de la CPI a prononcé l'acquittement de Jean-Pierre Bemba vendredi, mais n'avait pas ordonné sa libération. Elle a estimé que la responsabilité de M. Bemba dans les atrocités perpétrées par sa milice en République centrafricaine n'avait pas été prouvée. Peter Hines, avocat de l'ancien chef de guerre congolais, a déclaré que M. Bemba aurait dû être libéré immédiatement. L'audience de ce mardi qualifiée d'urgente a donc été ajoutée à l'ordre du jour de la Cour. Le problème aux yeux des juges était sa condamnation en mars 2017 à un an de prison pour subornation de témoins. Un nouveau jugement a été ordonné en appel. On saura donc dans la journée si Jean-Pierre Bemba, après 10 ans de détention, va retrouver la liberté. Son acquittement intervient dans un contexte de tension croissante en RDC à l'approche de l'élection présidentielle prévue le 23 décembre.
À Madagascar, Christian Tsai, le nouveau premier ministre de consensus, a mis en place son gouvernement. Sa principale mission sera d'organiser les élections générales prévues cette année pour sortir le pays de la crise. Le point avec Marie Benson.
Le nouveau premier ministre malgache a mis en place son gouvernement. Conformément à la décision de la Haute Cour constitutionnelle, la nouvelle équipe restera au pouvoir jusqu'à la tenue des élections prévues d'ici septembre. Depuis plusieurs semaines, l'opposition manifeste pour exiger la démission du président malgache. Les opposants avaient saisi la Haute Cour qui avait donné une semaine au président pour nommer un gouvernement de consensus. Christian Tsay, un ancien haut fonctionnaire international, avait été choisi le 4 juin comme chef de gouvernement. Malgré tout, l'opposition est mobilisée tous les jours sur la place du 13 mai à Antananarivo pour réclamer le départ du président élu fin 2013, mais qui n'a pas encore dit s'il va briguer un second mandat.
Eh bien, maintenant, je crois qu'on peut passer à la Minute Éco et au sport.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La Minute Éco, Eric Monirakiza.
La Côte d'Ivoire offre un environnement économique très concurrentiel et les petites et moyennes entreprises PME peuvent aussi s'associer aux grandes entreprises sur les gros appels d'offres. Les PME françaises tentent de s'offrir un chemin avec un taux de croissance de près de 8% depuis 2012. Abidjan attise les convoitises. La locomotive en Afrique de l'Ouest suscite l'intérêt de la Chine, la Turquie, du Maroc, de l'Italie ou encore l'Espagne. Paris a exporté en 2017 pour 1,2 milliard d'euros de marchandises vers la Côte d'Ivoire. Le ministère allemand des Transports a ordonné le rappel immédiat à travers l'Europe de 700 774 Mercedes. Ces véhicules sont équipés de logiciels capables de fausser les niveaux d'émission. Les modèles principalement concernés sont les fourgons Mercedes Vito et les SUV classe GLC de type 220D. La maison mère de Mercedes, Daimler, est visée depuis deux semaines par une enquête des autorités allemandes. L'Irak a accusé d'autres pays pétroliers d'extraire plus de barils que le quota fixé par l'OPEP et ses partenaires. Conséquence, le prix du pétrole n'a pas atteint le niveau souhaité. Bagdad demande plus de soutien, de stabilité et l'engagement des pays producteurs à l'accord de 2017. Les producteurs d'eau brute se sont engagés à limiter leur production pour réduire l'offre sur le marché mondiale et ainsi tenter de redresser les prix. Le 22 juin, l'OPEP et ses partenaires discuteront de l'avenir de leur accord.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
On connaît désormais tous les pays qualifiés pour la phase finale de la CAN féminine 2018.
Le Nigeria, après son succès 6-0 devant la Gambie hier, a complété le tableau. Dès samedi, le Cameroun et la Guinée équatoriale ont respectivement décroché leur ticket devant le Congo et le Kenya. Dimanche, les Cadors ont répondu présents à l'image de l'Afrique du Sud, de la Zambie, du Mali et de l'Algérie. Toutes ces huit nations n'attendent désormais que le tirage au sort de la phase finale. La CAN féminine 2018 est prévue, on le rappelle, appel au Ghana du 17 novembre au 1er décembre. À l'issue du tournoi, les trois premiers se qualifieront pour la Coupe du Monde prévue à l'été 2019 en France.
Préparation du Mondial 2018, le Sénégal s'est rassuré hier face à la Corée du Sud.
Opposé à la Corée du Sud pour son dernier match de préparation, les Lions de la Teranga se sont imposés 2-0. Après l'ouverture du score sur un but contre son camp d'un joueur coréen, le Sénégal a porté le score à 2-0 grâce à un but de Moussa Konaté sur pénalty à la 85e. Les Lions se rassurent donc après leur défaite contre la Croatie il y a quelques jours. Ils doivent atterrir ce mardi en Russie et feront leur première sortie au Mondial 2018 le 19 juin contre la Pologne.
Bonne nouvelle pour Mohamed Salah et l'Égypte.
Blessé à l'épaule en finale de la Ligue des Champions, la star de l'Égypte s'est pour la première fois entraînée sur une pelouse hier depuis sa blessure. Le pharaon n'est pas encore en état de participer à la séance collective mais a pu s'entraîner individuellement sous l'œil du staff médical de sa sélection. Rapporte le quotidien L'Équipe, une avancée positive même si rien ne dit que le joueur de Liverpool sera rétabli d'ici vendredi pour le match contre l'Uruguay.
Toujours en Russie, grande foule pour voir l'entraînement public de Messi et l'Argentine.
Environ 400 personnes dont une centaine de journalistes ont assisté hier au premier entraînement ouvert au public de la sélection argentine dont la star Lionel Messi a évidemment monopolisé l'attention. Messi ont scandé les plus jeunes spectateurs quand est arrivé sur le terrain d'entraînement. La star argentine accompagné du Parisien Ariel Di Maria. Les drapeaux et maillots du FC Barcelone, le club de la Pulga, étaient également plus nombreux que ceux de l'Albi Céleste, malgré la présence d'une poignée de fans argentins.
VOA Afrique, édition spéciale sur le sommet historique entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un ce matin à Singapour. Ils ont signé un document à la fin de leur rencontre, on en ignore pour le moment la teneur. Mais les deux leaders ont semblé tous les deux très optimistes dans une conférence de presse qu'ils ont donnée en commun. Eh bien, merci à Idriss Fall, Jean-Roger Bion, Anne Albertson et Daryl Smith à la régie. Idriss Assedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.